Le monde décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux.
Salut, j'espère que tu vas bien. T'es-tu posé des questions, comme Socrate ? As-tu laissé germer en toi les graines de la philosophie ? Bon, aujourd'hui nous allons provisoirement quitter la Grèce pour partir sur les traces d'un grand sage, contemporain de Socrate, qui a eu une influence majeure sur notre monde. Il s'agit de celui qui deviendra Bouddha. Nous pensons qu'il a vécu vers moins 500 en Inde. À la même époque, nous avions donc Socrate à Athènes, mais aussi, si tu te rappelles, Confucius et Lao Tzu en Chine, et bien sûr Bouddha en Inde. Quelle époque riche en grands sages! Sans plus attendre, partons pour l'Inde et allons faire la connaissance de Siddhartha Gautama, qui sera plus tard nommé Bouddha, ce qui signifie l'éveillé. Bonjour Bouddha, je suis extrêmement impressionnée de faire votre connaissance. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes devenu Bouddha ?
Bonjour Léa. Oui, je suis heureux de partager mon expérience avec toi. Je menais une vie simple et très confortable dans une famille aisée. Mais, un jour, j'ai été confronté à la souffrance. Et cela m'a poussé à me questionner, et a fini par mener à une illumination qui a bouleversé ma vie. J'ai fini par comprendre les causes profondes de la souffrance humaine, et comment les gens pouvaient limiter leur souffrance. Depuis, il me tient à cœur de partager cet enseignement pour aider les autres à se libérer de la souffrance, en leur enseignant ma philosophie du bonheur.
Eh bien, volontiers. Parce que moi, souffrir, très peu pour moi. Franchement, je m'en passe volontiers. Peut-être pouvez-vous commencer par nous raconter en quoi consiste cette illumination dont vous nous parliez ?
Mes parents avaient voulu me protéger, et pendant 29 ans, j'ai vécu dans un palais, à l'abri du monde extérieur, et de tout ce qu'il s'y passait. J'avais donc une vue biaisée de la vie, et je n'avais jamais vu la souffrance. Un jour cependant, je me suis aventuré hors de l'enceinte du palais, et j'ai fait 4 rencontres. J'ai croisé un homme âgé, un homme malade, un homme mort et un ascète. J'ai d'abord réalisé que tous les êtres vivants vieillissaient, tombaient malades et finissaient par mourir, et cette prise de conscience m'a fait froid dans le dos. J'étais vraiment horrifié. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé l'ascète.
Un ascète, c'est une personne qui vit une vie rigoureuse et dure, limitant ses besoins et s'imposant des privations pour atteindre une maîtrise de l'esprit. C'est bien cela ?
Oui, c'est exact. Et cet ascète souriait paisiblement depuis le bord de la route. Malgré la proximité d'un vieillard et d'un homme mort, il avait simplement l'air serein et même heureux. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé pourquoi il ne semblait pas préoccupé par la vie comme les gens autour de lui. Il m'a répondu qu'il poursuivait une vie de non-attachement et de sérénité, et que son bonheur venait de là.
Si je comprends bien, cet ascète n'avait rien, mais d'un autre côté, comme il ne désirait rien, il était heureux ?
Exactement. C'est tout à fait cela. Et d'avoir vu de mes yeux toutes les souffrances, et ensuite de voir cet homme paisible et serein face à ses souffrances, cela m'a bouleversé. Je suis rentré à mon palais, et je ne cessais de penser à la maladie, à la vieillesse, et à la mort. Et au fait que tout ce qui m'entourait disparaîtrait un jour. Cela me rongeait tellement, qu'une nuit, j'ai quitté le palais et je suis parti. J'ai appris la méditation, et je me suis mis à méditer, méditer et encore méditer. Je voulais vraiment comprendre. Un jour, alors que je méditais sous un arbre, j'ai eu une illumination. Les 4 nobles vérités se sont imposées à moi.
Si je ne me trompe pas, les 4 nobles vérités sont les principes fondamentaux du bouddhisme. Pouvez-vous nous dire en quoi ils consistent ?
La première noble vérité nous enseigne que la vie peut parfois être difficile et douloureuse. La deuxième noble vérité nous dit que la cause de la souffrance est souvent l'envie. La troisième noble vérité nous apprend qu'il est possible de mettre fin à la souffrance. En apprenant à contrôler nos désirs et nos pensées, nous pouvons être plus heureux. Et enfin, la quatrième vérité nous montre le chemin pour s'éloigner de l'envie et de la souffrance.
La première vérité, qui consiste à dire que nous tous serons à un moment ou à un autre confrontés à la souffrance et qu'il faut l'accepter, je la comprends. Mais je comprends moins la deuxième, quand vous dites que la cause de la souffrance est l'envie.
Il y a différentes formes de souffrance bien sûr, mais le désir et l'ignorance sont de véritables poisons pour l'esprit. Les gens souffrent parce qu'ils désirent des choses, ou parce qu'ils s'attachent à des choses ou des états qu'ils voudraient permanents, alors que le monde, lui, est en constante évolution. Les gens se définissent par leur travail, leur famille, et ce qu'ils possèdent, et considèrent ces choses comme permanentes et stables. Alors qu'elles ne peuvent pas l'être. Rien dans la vie n'est permanent. L'envie de permanence dans un monde en perpétuel changement entraîne la souffrance, et il faut donc mettre fin à l'envie. De même, avoir tout le temps envie de choses, y compris de choses que nous ne pourrons jamais avoir, nous rend malheureux. Et c'est justement là que nous pouvons tous agir. En libérant notre esprit du désir excessif, nous pouvons nous libérer de la souffrance.
Donc ce que vous dites, c'est qu'une grande partie des souffrances, je me les inflige à moi-même, par mes désirs. Mais je peux m'en libérer en prenant un peu de distance et de recul ?
C'est exactement cela. L'incapacité des hommes à voir correctement la réalité crée une partie de leur souffrance. Leur ignorance les pousse à toujours avoir envie de posséder davantage. Et ce sont ces désirs ou envies qui créent leur souffrance.
Je pense que je commence à comprendre. Si je me dis que vraiment il me faut absolument le dernier modèle de téléphone, et que je suis persuadée que je serai plus heureuse si je l'ai enfin, je vais être frustrée tant que je ne l'ai pas. Voire, je vais même être jalouse de ceux qui l'ont. Et cela va me frustrer. Et si je mets toute mon énergie dans ce désir, je vais de plus en plus souffrir de ne pas l'avoir. Et c'est là que vous est venue la troisième noble vérité, le fait qu'on peut réduire ses souffrances.
En effet, au lieu de mettre son énergie et ses pensées dans des choses qui ne font qu'accroître l'attachement, l'envie et la souffrance, il faut les mettre sur des choses qui encouragent le non-attachement, la sérénité, l'amour de soi, des autres et du monde. Si on a trop de désirs ou qu'on désire des choses qu'on ne pourra jamais obtenir, on restera perpétuellement insatisfait.
Je comprends. En même temps, c'est facile de dire qu'on doit arrêter d'avoir envie des choses, mais c'est autrement plus compliqué de le faire réellement.
C'est vrai. Ce n'est pas si simple. Et c'est pour cela qu'il faut s'y reprendre tous les jours. D'abord, il faut comprendre ce que l'on désire réellement, et reconnaître qu'une grosse partie de nos envies ne sont que des illusions. Ensuite, il faut accepter le monde tel qu'il est, et ressentir de la compassion pour tous les êtres vivants. Ma quatrième vérité parle d'un chemin, d'un développement personnel. Et au bout du chemin, il y a le nirvana, un état de paix, de bonheur et de libération totale de la souffrance.
Votre quatrième noble vérité est comme un guide pour une vie meilleure vers un état de bonheur, le nirvana, qui se mérite et qu'on atteint en pratiquant la méditation et en cherchant la sagesse. Mais il faut donc comprendre qu'il faut du temps, des efforts et de la patience pour y arriver. Dernière question. Pourquoi le lotus est-il si important pour vous ?
Le lotus a une grande signification symbolique pour nous les bouddhistes. Il représente la pureté et l'éveil spirituel. La pureté, parce que même s'il peut grandir dans la boue, il émerge de la boue sans être lui-même souillé. Et l'éveil spirituel, qui est le but ultime des bouddhistes, car il passe par différentes étapes de croissance, et s'ouvre lentement pour révéler sa beauté intérieure. Nous aimons aussi le fait qu'il flotte à la surface de l'eau sans être attaché, ce qui nous rappelle l'importance du non-attachement aux choses matérielles et aux désirs.
Mille merci Bouddha pour cet éclairage passionnant. Voilà qui me donne beaucoup de matière pour réfléchir sur mes envies.
Merci à toi Léa. Je suis ravi de continuer à enseigner ma doctrine, et j'espère réussir à faire profiter de nombreuses personnes de mon illumination.
Pour mes auditeurs, vous le savez peut-être déjà, mais le bouddhisme se répandra dans le monde et deviendra une philosophie et religion mondiale, avec de nombreuses écoles et traditions. Même s'il existe plusieurs courants du bouddhisme, on estime qu'il y a de nos jours au total environ 500 à 600 millions de bouddhistes dans le monde. Ce qui fait en fait la quatrième religion mondiale, derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il est pratiqué dans de nombreux pays, en particulier la Chine, qui compte la plus grande population de bouddhistes, mais aussi en Thaïlande, au Japon, au Myanmar et dans bien d'autres pays. Par contre, c'est le comble. Alors qu'il est né en Inde, le bouddhisme est de nos jours assez peu pratiqué en Inde. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi ça me fait quand même bien réfléchir cette histoire de trop de désirs. Lors de notre prochain podcast, nous retournerons en Grèce pour parler d'un des plus grands conquérants qu'il soit, Alexandre le Grand, et de la période hellénistique. Entre-temps, je te souhaite de réussir à limiter tes désirs et d'apprendre à être un peu plus détaché et serein. À très vite !